Séoul au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. La fête de la francophonie continue à séduire les amateurs du français et des cultures francophones. Parmi les différents événements, découvrons cette fois-ci la lecture pour les petits. La fête de la francophonie propose 5 temps d'heures du conte pour les enfants qui sont aussi acteurs de la langue française dans le monde. Les lectures se font en français et en coréen auprès des petits âgés de 4 à 7 ans. Samedi dernier, 2 séances se sont déroulées à la Bibliothèque nationale pour enfants et jeunes adultes à Séoul et sont prévues de nouveau pour le samedi qui arrive. Hier, José Bisayon, autrice et dessinatrice jeunesse en provenance du Québec, a présenté son univers à travers son livre « Reviens sur Terre, Esther ». Il est aussi professeur en langue et littérature française de l'Université féminine de Sungmyeong, qui a fait la lecture dans la langue de Molière, va nous raconter dans son interview comment s'est passée la rencontre avec les enfants.
Alors, le but de cette intervention, en l'occurrence, c'était de sensibiliser les petits Coréens francophones ou les familles d'horizons multiculturels à des échanges comme ça en français. Donc, les contes étaient choisis donc parmi des livres d'une société bien connue qui diffuse des petites histoires comme ça régulièrement chez les élèves d'école française. Et donc j'ai lu un livre pour les tout petits en français, en mettant bien le ton. Ils réagissaient, c'est singulier, je ne sais pas s'ils comprenaient tout, mais les histoires étaient systématiquement traduites page par page par une collègue coréenne et l'accueil a été très très bon. On a passé un très bon moment. Après, basé sur les livres, il y avait des petites activités manuelles avec les enfants en français et en coréen et la langue n'a jamais été un souci. Les enfants souriaient, ils se sont bien amusés et c'était le but, passer un bon moment entre le français et leur langue.
Les parents ont découvert que leur fille avait été échangée avec un autre bébé à la naissance, 40 ans plus tard. L'histoire remonte à 1980. La femme du couple a donné naissance à leur enfant dans un hôpital à Suwon, ville située en banlieue sud de Séoul. Les parents l'ont bien sûr considérée comme leur fille de sang et l'ont élevée avec amour. Mais en avril 2022, ils ont appris que celle-ci avait un groupe sanguin trop différent de les leurs. Choqués, ils se sont alors disputés et le père a remis en doute la fidélité de sa femme. Ils ont finalement procédé à un test ADN et les résultats montraient bel et bien que ce n'était pas leur fille biologique. Alors, qui sont les vrais géniteurs de cette femme âgée maintenant de 43 ans et où est le vrai enfant du couple? Les parents ont soupçonné que ce dernier avait été échangé au centre hospitalier et lui a demandé les données sur la naissance de leur fille. Cependant, comme l'affaire remonte à plus d'une quarantaine d'années, tous les documents concernés ont été déjà supprimés. Il est donc impossible d'identifier l'enfant échangé et les parents qui ont hérité de leur vraie fille. La famille a alors porté plainte contre le directeur de l'hôpital et réclamé un dédommagement pour leur préjudice physique. La cour du district ouest de Séoul a donné gain de cause aux plaignants et a condamné le défendeur à verser 50 millions de won, soit 35 000 euros, à chacun des deux parents et à la fille, ainsi que les intérêts de retard calculés depuis 1980, l'année de sa naissance de cette dernière, avec un taux de 5% par an. La juge a déclaré que la souffrance de ces trois personnes qui ont découvert qu'elles n'avaient pas de lien biologique, contrairement à ce qu'elles ont cru pendant plus de 40 ans, serait très importante. Avant d'ajouter que si le mauvais enfant est rendu à un couple, la responsabilité est imputée au directeur de l'hôpital ou aux infirmiers qui l'a employé et que le défendeur a pour obligation de payer des dommages et intérêts à cette famille. L'arrondissement de Gwangak à Séoul dispose d'un club de prise en charge des voisins. Sa principale mission est de venir aux nouvelles des personnes âgées vivant seules ou des classes défavorisées. Selon le quotidien Hangyeolé, les bénévoles Jang Yongnan et Kwon Kyung-suk ont récemment rendu visite à un homme de 88 ans qui vit seul depuis 13 ans. Dès que l'octogénaire a entendu quelqu'un frapper à sa porte, il s'est empressé de sortir pour accueillir ses invités. Il a témoigné qu'il se sentait souvent seul et qu'il est donc toujours ravi quand un des activistes l'appelle ou lui rende visite pour demander si tout va bien. Chang, une femme de 62 ans, participe à ce bénévolat depuis 5 ans. Au début, ce n'était pas facile car quand elle téléphonait, certains s'en sont pris à elle en lui demandant si elle voulait savoir s'ils sont morts ou pas. Mais aujourd'hui, après avoir compris son intention, il la remercie de les contacter. En novembre dernier, une personne âgée dont elle s'occupe l'a appelée pour dire qu'elle ne pouvait pas bouger à cause de vertige. Chang a tout de suite contacté la mairie et l'a fait transporter à l'hôpital. Le seigneur faisait une intoxication alimentaire et grâce à Chang, elle a pu être soignée à temps. Quant à Kwon, elle a rejoint l'association cette année. Elle a affirmé également que les seigneurs sont souvent hostiles en premier lieu. Un d'entre eux a refusé froidement de la recevoir dans son domicile lors des premières visites et elle a dû laisser une note sur la porte expliquant l'objectif de ses activités. Et une fois qu'il a ouvert son cœur, c'est maintenant lui qui s'inquiète davantage pour elle en lui disant par exemple de s'habiller chaudement. Cette année marque la cinquième année des débuts de ce club. Le nombre de membres qui était de 36 en 2019 a continué à augmenter pour atteindre 70. Les activistes qui connaissent leur quartier mieux que personne permettent d'éliminer les laissés pour compte du système de protection sociale. Ils créent un réseau avec les ménages socialement isolés pour prévenir la mort solitaire. L'année dernière, le club a demandé régulièrement des nouvelles de 2879 foyers par téléphone ou en face à face. Et pour ceux qui avaient besoin d'une aide sociale, il les a mis en relation avec les établissements publics compétents. En dehors du club de prise en charge des voisins, l'arrondissement de Gwangak gère plusieurs programmes en faveur des personnes vivant seules. Par exemple, la municipalité fournit des repas aux individus âgés de plus de 50 ans et détecte des situations d'urgence à l'aide de l'Internet des objets. Maintenant, faisons une petite pause musicale avec Say Hello, interprétée par Sweden Laundry.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Et oui, vous êtes bien sur KBS World Radio pour votre magazine de société Séoul au jour le jour en compagnie de Kim Hong-ju ce jeudi 23 mars. Madame A, une femme dans la trentaine, ayant assisté à une réunion publique parents-professeurs tenue dans une école primaire de Séoul pour sa fille en première année d'école primaire, a été étonnée par le défilé qui se déroulait sous ses yeux. Ce jour-là, toutes les mères portaient des sacs et des vêtements de grande marque. En effet, vers la mi-mars, des festivals scolaires sont organisés dans la plupart des écoles du pays. Ces événements permettent d'expliquer le plan de gestion de l'école aux parents et sont également le moment où se déroulent les élections des membres de l'association des parents d'élèves et du comité de gestion de l'école. Des entretiens avec le professeur principal sont également prévus. Ces festivals scolaires sont d'autant plus importants cette année car ils se sont tenus en présentiel pour la première fois en 4 ans en raison de la pandémie de Covid-19. Pour cette occasion spéciale, les parents avaient l'air d'être être très, voire même trop, préoccupés par leur accoutrement ce jour-là. Un hashtag intitulé 학부모 총회룩, traduisible par le look des parents pendant le conseil d'école, a fait un carton sur les réseaux sociaux. Les publications liées à la mode du conseil d'école ont afflué également sur les forums sur Naver dédiés aux working moms et sur ceux liés au luxe. Des messages indiquant quel sac est tenu à les porter une maman, d'autres demandant des avis entre deux sacs de grande marque. Étant donné qu'il s'agit d'un événement pour leurs enfants, il est, selon les parents, naturel de vouloir faire bonne impression auprès des enseignants et des autres parents. Pour cette nouvelle mode de la maman qui travaille, Ibudine, présidente de l'hôtel Sheila, en est la chef de file. Cette dernière a assisté à la cérémonie de remise des diplômes du collège de son fils en février dernier, vêtue d'un accoutrement remarquable et remarqué, et portait une veste courte en tweed de haute couture, un pantalon large en denim et un grand sac en cuir au design simple. Cette allure a été acclamée pour être soignée et décontractée. Cependant, certains soulignent que l'atmosphère est devenue étouffante, comme si la fête de l'école était devenue un lieu pour les parents de montrer leur richesse. Pendant le conseil d'école, une internaute a même déclaré « J'avais une amie qui avait emprunté des produits de luxe à sa belle-mère pour assister à un festival scolaire. Je me suis demandé si je me devais d'aller aussi loin. » Une autre pointe du doigt, un phénomène de plus en plus présent. Aujourd'hui, les gens se soucient trop de ce qu'ils reflètent extérieurement. J'ai vu des cas où certaines personnes se sentaient obligées d'acheter une voiture de luxe de marque étrangère. Une internaute a pour sa part tenté de relativiser. Tous les produits de luxe sont finalement peu importants. Au fur et à mesure que leurs enfants montent dans les classes supérieures, les autres finissent par affluer vers la mère d'un élève qui sera doué dans ses études. Enfin, une mère qui ne possédait pas de sac de luxe lors de l'événement a témoigné de situations délicates. « Je n'ai pas de sac de grande marque et je dois me demander comment je peux aller au festival de l'école sans avoir l'air ridicule. » Nous sommes au printemps, en pleine saison des fraises au pays du matin clair. La municipalité de Chunnan, dans la province de Chungcheong du Sud, organise ce week-end un événement qui fait saliver Berry Berry Pang Pang Day. L'objectif est de soutenir les fermes de fraises et les boulangeries locales. Pain signifie le pain ou la pâtisserie en coréen. 55 boulangeries du coin proposeront des types variés de pâtisseries et de viennoiseries à base de ce fruit printanier. Afin que davantage de personnes puissent en profiter, des rabais de 10% seront appliqués aux produits concernés et la confiture de fraises sera offerte à tous les clients. Les membres de l'association de boulangeries de Corée ont concocté eux-mêmes 12 000 pots de confiture avec les fraises des fermes locales congelées l'an dernier et des fruits de petite taille. Si Chunnan ambitionne de s'imposer comme une ville de pâtisserie, c'est parce qu'elle a une longue histoire avec les gâteaux aux noix. Pendant l'événement, les magasins de ces Hodo Kwaja vendront des gâteaux aux noix fourrés de pâtes de fraises à la place du haricot rouge. La liste des commerces partenaires peut être consultée sur le site officiel. Dans le cadre du festival, la ville a également recruté un groupe de pèlerinage des boulangeries. Parmi les 1800 équipes qui se sont portées candidates, 200 ont été sélectionnées, à savoir 100 autochtones et 100 en provenance d'autres régions. Leur rôle est de faire connaître les charmes de Chunnan aux quatre coins du territoire. Ces quelques 600 personnes visiteront les boulangeries ainsi que les 8 destinations touristiques nouvellement retenues et posteront leurs expériences sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas tout. Samedi, un programme permettant aux visiteurs de fabriquer les Hodo Kwaja se déroulera dans le hall de l'hôtel de ville auprès de 300 individus qui se sont inscrits à l'avance. Le maire de Chunnan, Park Sang-dun, a souhaité que plus de personnes voyagent dans cette ville pendant ces beaux jours de printemps en profitant de la bonne pâtisserie. La ville de Jecheon dans la province de Chungcheong du Sud est surnommée Jeberia. C'est un mot composé de Jecheon et Siberia qui signifie Sibérie en anglais. Parce que la vague de froid en hiver est particulièrement rude dans cette ville, mais à notre surprise, les bananiers y sont cultivés. Le centre de technologie de l'agriculture de Jecheon les a plantés dans une serre de 330 mètres carrés en 2021. L'objectif est de tester le potentiel de l'agriculture de cette région, alors que les zones de la culture subtropicale se déplacent de plus en plus vers le nord sur fond de réchauffement climatique. Récemment, une cinquantaine de bananiers ont tous donné des fruits. Parmi eux, deux portent des bananes suffisamment grosses et en bon état pour être vendues au marché. Comme elles sont en train de mûrir et de devenir jaunes, il sera possible de les récolter dans un ou deux mois. D'habitude, il faut attendre près d'un an avant la première récolte des bananes en Corée du Sud, mais à Jecheon, où le mercure descend jusqu'à moins 20 degrés en hiver, cette période s'allonge entre 17 et 20 mois. Selon le responsable du centre Jodaeon, un bananier est à son aise à 18 degrés en moyenne. Et la serre de Jecheon maintient sa température à 10 degrés en hiver pour que les plantes passent cette période en arrêtant leur croissance. Le centre d'agriculture cultive également d'autres plantes subtropicales comme la grenade, la figue et la chonhaeyang, une sorte d'agrumes principalement cultivée sur l'île méridionale de Jeju. Au deuxième semestre cette année, une ferme intelligente sera installée sur une surface de 2025 mètres carrés. Elle servira à la culture de 18 sortes d'arbres à fruits rares à voir en Corée du Sud, comme le manguier, le papayer, le couvoyer et l'aloe vera. Selon Jo, le changement climatique devrait s'accélérer malheureusement, et pour mieux s'adapter à cette situation, le centre développera la technologie de la culture des plantes subtropicales qui augmentera le revenu des agriculteurs. Voilà, c'est la fin de notre émission Séoul au jour le jour du jeudi. C'était Lee Jin et Jisoo François Kim à la rédaction et Kim Hong-joo au micro avec Ohayang à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et nous vous souhaitons une très bonne soirée.